Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ta tendresse vaut mieux que le vin. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est désirable. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. C'est par ces versets tirés du Cantique des Cantiques que je désire introduire ce cinquième et dernier livre poétique de la Bible, appelé aussi le Chant des Chants, ou le plus beau des chants, ou encore le Chant suprême. Et nous l'avons compris, ce Chant suprême exalte l'amour. Dans notre série qui a pour thème Sagesse pour ma vie sous le soleil, le Cantique des Cantiques est aussi un livre de sagesse, un livre d'enseignement aussi pour nous, afin que sous le soleil, c'est-à-dire sur cette terre, soit notre vie puisse être épanouie parce que nous vivons le projet de Dieu. Alors le Cantique des Cantiques est l'un des livres les plus particuliers, les plus difficiles de l'Ancien Testament. En plus de son caractère quelque peu érotique, on comprend pourquoi ce livre est peu prêché dans les églises, voire pas du tout. Si je devais vous poser la question, je ne vous la poserai pas, mais quand même, quand est-ce que la dernière fois dans l'église où vous êtes, vous avez entendu une prédication sur le Cantique des Cantiques? Jamais, certains disent. Eh bien, Pino, c'est le moment. Le Cantique des Cantiques n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament, mais cela n'empêche pas qu'il puisse figurer légitimement dans l'Ancien Testament. C'est la parole de Dieu, au même titre que tous les autres livres de la Bible. Et d'après le premier verset que je vais vous lire, le Cantique des Cantiques de Salomon, eh bien, il semble qu'il est écrit par Salomon, le troisième roi d'Israël à qui Dieu a donné une sagesse exceptionnelle, ainsi que des connaissances de la nature assez remarquables. D'ailleurs, dans le Cantique des Cantiques, ce n'est pas moins de 22 noms de plantes et de 15 noms d'animaux qui y figurent. Pourtant, nous verrons par la suite que ce n'est pas aussi simple que d'attribuer ce livre à Salomon. L'important, ce n'est pas vraiment de savoir qui l'a écrit. L'important, c'est qu'il se trouve dans la Bible et qu'il y est placé pour nous interpeller sur notre amour pour Jésus, pour notre conjoint, et sur notre détermination à rester fidèle. Alors, dans les livres poétiques que nous avons lus, Job nous apprend la foi dans la souffrance, les psaumes nous donnent le modèle de la louange authentique, les proverbes nous enseignent comment bien agir, l'Ecclésiaste nous apprend à nous réjouir de toutes choses, et le Cantique des Cantiques enfin nous fait comprendre le commandement suprême, celui du vrai, du pur amour dans la fidélité. Et le Cantique des Cantiques, c'est un livre poétique, ça veut dire que c'est un recueil de poèmes, de chansons même, qui s'articule autour de l'histoire d'une femme qu'on appelle la Sulamite. Ce livre était lu par les Juifs à deux occasions, d'abord dans les mariages, et puis aussi dans le temps de Pâques. Parmi les dizaines et les dizaines d'interprétations échafaudées sur ce livre, là, les commentateurs ont été assez nombreux, j'aimerais qu'on puisse en retenir trois. Dans les deux premières interprétations, le berger et Salomon ne forment qu'une seule personne. Salomon s'est déguisé en berger pour mieux séduire la Sulamite. Dans la première interprétation, on ne voit qu'une allégorie spirituelle. L'amour qui unit la Sulamite à ce personnage ne peut être que de nature spirituelle. C'est soit l'union de Dieu avec Israël pour les Juifs, ou soit l'union de Jésus avec son Église pour les chrétiens, union bien sûr basée sur l'amour authentique. La deuxième interprétation, qui voit le berger et Salomon étant la même personne, voit plutôt une réalité littérale, un tableau d'un amour sensuel, sexuel, entre la Sulamite et le berger Salomon. Cette position a rendu certains juifs et certains chrétiens scandalisés qu'un livre érotique puisse être contenu dans la Bible. Et vous avez peut-être entendu comme je l'ai entendu, que certains parents chrétiens déchiraient le livre des Cantiques des Cantiques pour offrir une Bible expurgée de ses versets érotiques pour ne pas que leur enfant soit confronté à ce langage un peu particulier. En effet, quand la Bible parle de relations sexuelles, elle utilise le mot « connaître ». Adam connut Ève, elle devint enceinte et accoucha de Caïn, nous dit Genèse 4.1. C'est sobre. C'est suffisant pour ne pas donner plus de détails croustillants sur la sexualité du premier couple et de tous ceux qui allaient venir par la suite. Puis on retrouve d'ailleurs cette même pudeur dans le Nouveau Testament entre Marie et Joseph. Matthieu 1.25 dit ceci, « Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel elle donna le nom de Jésus. » Ce qui signifie que Marie a eu des relations sexuelles avec Joseph, son mari, mais après la naissance de Jésus. Sachez enfin que les Juifs orthodoxes maintiennent toujours l'ancienne tradition selon laquelle les hommes âgés de moins de 30 ans ont l'interdiction de lire ce livre. Ce que cette deuxième interprétation laisse sous-entendre, c'est la beauté et la puissance du lien conjugal comme base morale et spirituelle de la monogamie. Et bien sûr, la condamnation de la polygamie, laquelle était pourtant admise chez les Juifs du temps des patriarches. Pensez à Abraham, pensez à Jacob, pensez à tout le monde. Je profite de l'occasion pour rappeler que dans la pensée biblique, la sexualité ne se vit qu'entre un homme et une femme dans le cadre exclusif du mariage. Je désirais le préciser. La troisième interprétation y voit trois personnages distincts. La Sulamite, qui est fiancée à un berger, et le roi Salomon. C'est l'interprétation à laquelle personnellement je souscris, étant pour moi la plus évidente des trois selon la compréhension que j'ai de ces textes. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Une jeune femme d'une beauté parfaite, la Sulamite, est à la recherche de son berger bien-aimé dans la campagne. Le roi Salomon s'y promène avec son escorte et il est frappé par la beauté de cette femme. Il la kidnappe et l'installe dans le harem de son palais. Par tous les moyens, il tente de la séduire, mais elle résiste à toutes ses flatteries, à toutes ses promesses, à toutes ses avances, à l'offre même de partager le trône avec lui. Sa façon de résister, quelle est-elle ? Eh bien, elle dirige toutes ses pensées vers son bien-aimé et elle les proclame à qui veut les entendre. Et après avoir épuisé par tous les moyens de séduction qu'il pouvait avoir, Salomon n'a pas réussi à vaincre la résistance de cette femme, ni son incorruptible fidélité au berger bien-aimé. Le roi finit par la renvoyer libre auprès des siens et elle retrouvera son amoureux. Voilà en quelques phrases, là, en résumé du Cantique des Cantiques. Alors, je vous propose qu'on puisse cheminer un petit peu dans ce livre. Et à dessein, je n'ai pas voulu mettre de rétroprojecteur, de PowerPoint, parce que j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur l'histoire, sur la Bible, et pas sur des dessins. Et je n'aurais personnellement pas voulu mettre des dessins dans un thème tel que celui-ci. Alors, contentez-vous d'écouter. Au verset 4 du premier chapitre, il nous dit que le roi introduit la Sulamite dans ses appartements. Et puis, déjà au verset 15 de ce premier chapitre, il tente de la séduire. Et il commence avec une approche flatteuse. « Tes joues sont charmantes. » Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Je devais imaginer les colombes qui battent des ailes et puis les yeux qui battaient comme ça. Et l'intention du roi est vraiment de séduire cette femme, alors qu'à l'époque, il a déjà 60 femmes et 8 ans de concubines. Si vous savez compter, bienvenue à la 141e. À la fin de sa vie, un roi 11, le verset 3, nous dit qu'il comptabilisera 700 femmes et 300 concubines. Excusez du peu. Mais alors que le roi flatte cette jeune femme, la réponse de la Sulamite sera inlassablement la même. Et on voit ça dans les chapitres 1 et 2. Elle dira à ce roi, « C'est mon bien-aimé qui est digne d'être aimé. » Et ça veut dire, « Et non toi. » Elle dira aussi, « C'est vers lui que je désire m'asseoir, et non pas auprès de toi. » Et puis elle dira ces paroles que vous connaissez certainement, « La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Et ce n'est pas la convoitise, au verset 4 du chapitre 2. Et elle finira en parlant toujours de son bien-aimé, en disant au verset 16, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » C'est intéressant ce mot « mon bien-aimé ». Est-ce qu'on le dit à son conjoint, « mon bien-aimé » ? Ça fait drôle, hein ? En fait, le mot hébreu de « mon bien-aimé », c'est le mot « dodi ». Et Dodi, ça veut dire « mon chéri ». C'est chou, hein? Alors, « mon bien-aimé ». En fait, les enjeux sont grands pour la Sulamite et les forces en présence semblent disproportionnées. D'un côté, vous avez un roi dont tout l'éclat de sa gloire, un roi admiré par tous, séducteur, riche, puissant, expert dans l'art d'aimer, avec 60 femmes et 8 ans de concubines, on lui fait confiance. Continuellement présent auprès de cette Sulamite et cherchant à fléchir sa détermination pour la mettre dans son lit. De l'autre côté, un simple berger, inconnu parmi les grands, pauvre, son pouvoir, malheureusement absent dans cette scène de vie que la Sulamite doit vivre toute seule. Et puis un berger qui aime sa fiancée d'un amour pur. Entre ces deux hommes, lequel doit choisir cette femme ? Quel dilemme ? Est-ce que c'est la chance de sa vie ? Ou bien une terrible erreur que de vouloir succomber à ce roi ? Ça, c'est vraiment une lutte intérieure dans toute sa grandeur morale. Tenir bon, résister, nourrir ses pensées de l'être aimé et non la sensualité d'un homme seulement intéressé par son corps. Et dans les chapitres suivants, 6, 7, Salomon continue dans les chapitres à essayer de séduire cette femme, mais il va de plus en plus fort. « Tu es belle », nous dira-t-il au chapitre 6. « Tu es terrible ». Tu me troubles. J'ai déjà 60 reines et 8 ans de concubines, mais c'est toi ma préférée. Tu es unique. Je pense qu'il a dû dire ça à la 140e, à la 139e, à la 138e, à la 137e. Parce que les séducteurs, ils ont souvent qu'un seul type de séduction à apporter. Il continuera, que tu es belle. Que tu es aimable, dans le sens, tu es digne d'être aimé. Et il dira, mon amour, mes délices, comme si pour lui, c'était déjà à lui, c'était déjà acquis. Tu es à moi. Et puis, il continuera en disant, le parfum de ton souffle est comme celui des pommes, et ta bouche est comme le vin du bonheur. La réponse de la Sulamite, elle est assez sanglante. Non, le vin du bonheur, il coule tout droit pour mon bien-aimé. On lit ça dans les chapitres 7, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Je suis à mon bien-aimé et pas à toi. Et ses désirs se portent vers moi. C'est à lui que je donnerai ma tendresse. Sous-entendu, pas à toi. Et elle terminera quant aux fruits exquis qui m'entourent. Je les ai réservés pour mon bien-aimé. Et sans cesse, la Sulamite revient à l'amour qui l'unit à son berger. Elle ne peut pas dire non comme ça au roi, mais elle lui dit quand même non en le rejetant à chaque fois qu'il met en avant ses essais de la séduire, et elle met en avant son amour pour son berger. Sans cesse, sans cesse, sans cesse, telles des vagues après vagues de séduction, Salomon va revenir à la charge, son succès. Et Dehlas, je vous l'ai dit, il finit par la renvoyer chez elle. Puis au chapitre 8, le verset 5, on la retrouve appuyée sur son bien-aimé. Les voilà enfin réunis. Et puis, elle aura cette belle déclaration qu'elle donnera. Elle dira, c'est pas forcément ce qui est grand qui mérite l'amour. C'est pas forcément ce qui est énorme qui éblouit les yeux. Elle dira, les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour et les fleuves ne les submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, et là on voit qu'elle fait allusion à Salomon, on ne ferait que le mépriser. Alors ça, c'est l'histoire. Maintenant, qui ces personnages peuvent-ils symboliser ? Alors, le berger, c'est Dieu. Le berger, c'est Jésus. L'Éternel est mon berger, nous dira le psaume 23, ou le bon berger de Jean 10 nous le disent. La Sulamite, ben c'est Israël pour les Juifs, c'est l'Église pour les chrétiens, mais c'est plus que cela. C'est vous, c'est moi, en tant que disciple de Jésus. Et puis enfin, Salomon, lui, est la personnification du royaume terrestre, l'éblouissante richesse couronnée de puissance et d'honneur. C'est l'attrait du luxe, c'est l'attrait de la luxure, de la vie facile, de la richesse, de la gloire de ce monde. Salomon, finalement, c'est le tentateur. Et on comprend bien que certains érudits ont de la peine à voir Salomon comme étant celui qui écrit le livre. D'habitude, on n'écrit pas un livre quand on a le mauvais rôle. Et là, il n'a pas le bon rôle. Mais le Cantique des Cantiques, c'est un livre de sagesse. La sagesse de prendre le temps de peser le pour et le contre et de choisir la fidélité. La sagesse de continuer à proclamer avec force notre amour et notre fidélité pour Dieu ou pour notre conjoint, malgré les séductions, malgré les Salomons qui peuvent nous submerger. Et j'aimerais, puisqu'il est parlé dans ce livre d'érotisme, de sexualité, d'abord, j'aimerais qu'on parle des couples, et particulièrement de la fidélité dans le couple. Dans la sexualité d'un couple, il y a parfois des épisodes de vie qui mettent à l'épreuve notre amour et notre fidélité. Nul n'est épargné, nul n'est à l'abri d'un Salomon ou d'une Salomone. Plus beau ou plus belle que lui ou qu'elle, plus riche, plus généreux dans ses cadeaux, plus généreuse dans ses cadeaux, plus présent ou plus présente dans la vie quotidienne de cette personne, peut-être plus séduisant ou plus séduisante que son conjoint, plus ceci ou plus cela. Et à l'exemple de la Sulamite, notre seule réponse à l'attrait d'un séducteur ou d'une séductrice, c'est de résister, de refuser l'infidélité, de refuser le mensonge. Notre seule réponse, c'est de résister avec foi et avec détermination et à redire notre amour à notre conjoint. Nous avons choisi le simple berger bien-aimé et pas le roi séducteur. Et dans votre couple, vous avez choisi le simple berger bien-aimé et non le roi séducteur. Mais n'attendez pas les difficultés pour dire et redire à votre conjoint que vous l'aimez chaque jour. Et c'est un petit peu ce que la Sulamite dit tout le temps dans ce Cantique des Cantiques, c'est qu'elle aime son bien-aimé. Et pourquoi pas relire ensemble, en couple, le Cantique des Cantiques et proclamer l'un à l'autre les versets qui parlent d'amour. Je vous promets de la joie et je vous promets des fous rires assurés. Le couple, mais c'est aussi la vie de disciple que ce livre fait mention. parce que dans notre communion avec Jésus, il y a parfois aussi des épreuves de vie qui mettent à l'épreuve notre amour et notre fidélité pour Dieu. Nul n'est épargné. Les compromis à notre foi sont tellement présents, tellement à portée de notre main, qu'il est parfois difficile de résister à l'attrait des sirènes de ce monde, la richesse, la notoriété, la puissance ou l'orgueil, le mensonge, l'impureté, le vol ou l'idolâtrie. Là aussi, le mot d'ordre pour les chrétiens en proie à cette tentation, c'est résister, refuser l'infidélité à Dieu. Et Pierre l'avait bien compris quand il dira dans 1 Pierre 5, 8 et 9, « Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » On pourrait dire aussi « Veillez, votre adversaire, Salomon, entre guillemets, rôde autour de vous comme un agneau séducteur. » Et puis, il est dit dans cette suite de 1 Pierre 5, « Résistez-lui, ferme en la foi, en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et puis, résister, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas non plus se lasser de dire à Dieu que l'on aime, se lasser de le louer, il ne faut jamais se lasser de l'adorer. Et quand on vit nos cultes personnels, quand on lit la Bible, quand on chante comme on a chanté tout à l'heure, comme on élève notre louange à Dieu, eh bien, on est dans cette position où on redit notre amour pour Dieu, où on fortifie cette fidélité, et les sirènes du monde ont de moins en moins d'attrait sur nos vies. Le cantique des cantiques, c'est le plus beau des chants. Un chant de victoire pour votre couple, un chant de joie pour votre sexualité épanouie, un chant de triomphe pour la victoire de la foi sur la séduction, un chant de louange à celui qui reçoit tout notre amour. J'aimerais terminer par ce dernier chapitre, le chapitre 8, et les versets 8 et 9 que j'aimerais vous lire. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de sein. Que ferons-nous pour notre sœur le jour où on parlera d'elle? Si elle est une muraille, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. S'il est une porte, nous disposerons sur elle une planche de cèdre. Alors, ces paroles peuvent être assez énigmatiques. Essayons de les comprendre un petit peu mieux. Ces paroles sont celles des frères de la Tsunamite alors qu'elle est encore une jeune adolescente. Et ils ne savent pas comment cette jeune sœur va réagir face à la séduction des hommes alors qu'elle aura bientôt un corps de femme. Voici ce qu'ils disent. S'il est une muraille, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. S'il est une muraille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle résistera aux avances des hommes et de leur séduction sensuelle, telle une muraille qui résiste aux assauts. Elle sera alors récompensée, et dans le texte, ça veut dire avec des bijoux d'argent. Puis ensuite, il est dit, s'il est une porte, nous disposerons d'elle une planche de cèdre. S'il est une porte, et on comprend toujours cette dimension quelque peu érotique jusqu'au bout de ce livre, elle capitulera, s'il est une porte, aux avances des hommes et elle les laissera franchir la porte de son intimité. Et les frères disent, il nous faudra alors la protéger contre cette menace. Porte ou muraille? J'entre dans la séduction ou je résiste? J'aimerais vous laisser cette dernière phrase, la parole de la Tsunamite elle-même, au verset 10 du chapitre 8, qui dit ceci. Je suis une muraille. Nous faisons nôtre cette détermination de la Tsunamite, cette parole qui nous engage, qui nous fait relever la tête, qui nous fait affronter ce monde de séduction avec un cœur rempli d'amour pour Jésus et avec une détermination à résister et à être un homme, une femme qui marche dans la pureté. Que ce soit dans cette relation avec toi, Jésus, ou que ce soit dans notre vie de couple, nous te disons ce matin, non pas comme une répétition d'un verset que nous entendons, mais comme une déclaration de foi personnelle, comme une prise de position dans le monde céleste. Je suis une muraille. Amen.